De la quête à l'enquête avec Myriam Sadoui.
En sol majeur, Yasmin Chouaki.
En sol majeur.
Regarder Final Cut de Myriam Sadoui, c'est rouvrir les tiroirs de la grande histoire et se retrouver dans les petits papiers de son récit familial. C'est voir un protectorat français entrer dans la chambre intérieure d'une histoire singulière entre une Italienne et un Tunisien. En recueillir les fragments, racisme, traumatisme, effacement, folie. Comme si la main d'un scénario qui nous dépasse écrivait notre vie à notre place. Jusqu'à l'intervention de notre invitée, comédienne, metteuse en scène et autrice qui signe le bien nommé Final Cut, à voir en ce moment au Théâtre de Belleville à Paris. Prix Maeterlinck de la critique 2019 du meilleur spectacle et de la meilleure actrice, Final Cut qui pioche dans la boîte à outils de la psychanalyse et du théâtre est une merveilleuse alchimie entre réalisme et art. À l'image peut-être de cette citation prisée par Myriam, « La vie imite l'art bien plus que l'art n'imite la vie ». Bonjour Myriam Sadoui.
Bonjour Yasmine Chouaki.
C'est pas mal de commencer avec une citation d'Oscar Wilde.
Oui, c'est pas mal.
Pourquoi cette citation ?
Oscar Wilde dit que le fog n'existait pas avant que Turner ne le peigne. C'est-à-dire comme si l'art nous faisait apparaître la réalité.
Le fog, le brouillard.
Le fameux brouillard, voilà, le fog. Et donc comme si l'art nous faisait apparaître la réalité plutôt que la réalité inspirant l'art. Et j'aime beaucoup cette idée que c'est l'art qui fait apparaître réalité, vérité, ça dépend un peu. Par exemple, je trouve fascinant que 10 ans avant l'élection d'Obama, il y ait eu cette grande série qui s'appelle 24, où le président des États-Unis était noir.
Et 24 heures, chrono.
Et j'aime imaginer que l'art peut imprimer la réalité.
Commencer la journée sur RFI avec « The Day Is Done » d'un certain Nick Drake pour en sol majeur, c'est pas mal ça. Cette chanson, elle a quel sens pour vous, Myriam Sadoui ?
Alors c'est une chanson à laquelle je suis très attachée parce qu'elle était dans un de mes spectacles qui s'appelle « La nostalgie de l'avenir », qui est une adaptation de La Mouette que j'ai montée il y a 10 ans. C'est mon mari qui est le concepteur sonore de mes spectacles. et qui avait trouvé cette musique alors que je lui disais il faudrait une chanson qui revienne tout le temps et qui aurait été la chanson de la rencontre entre Nina et Triplef, à la fois la chanson de l'amour et la chanson de la catastrophe. Et il m'a amené ça.
Le jour qui finit annonce aussi un jour sans fin. Hein. C'est un peu le sens de cette chanson.
Chaque fin annonce une catastrophe, mais en même temps un début, un renouvellement. Oui, je crois à ça, moi.
Est-ce que vous avez déjà perdu votre chemin?
Oui, toujours. J'ai une sorte de dyslexie spatiale, je confonds ma droite et ma gauche. Le seul endroit où je sais m'orienter, c'est un plateau de théâtre. Là, j'ai jamais de doute sur la droite et la gauche.
Donc la boussole, c'est le théâtre, on va peut-être y revenir.
On va dire que la boussole, c'est le théâtre, oui.
Alors pour revenir à des considérations plus géographiques, entre une mère italienne et un père tunisien dont on va raconter un peu l'histoire, une naissance en terre tunisienne pour vous, non ?
En terre française.
En terre française, vous voyez, ça commence. Pour quelles raisons vous vous êtes retrouvée en Belgique ?
Alors j'ai fait des études de théâtre en Belgique, à l'INSAS. Donc j'ai passé la même année le Théâtre National de Strasbourg et l'INSAS. Et j'avais envie et besoin de m'éloigner de ma famille maternelle. Et donc j'ai choisi ce qui était le plus loin, et c'était Bruxelles.
Donc c'était forcément pas la France.
C'était forcément pas la France. Je travaille très souvent en France, mais je vis à Bruxelles.
Bon, vous qui perdez apparemment facilement votre chemin, est-ce qu'on peut dire d'emblée que le théâtre, la philosophie, peut-être même la psychiatrie, vous ont aidé à le trouver, ce chemin ?
Oui, le théâtre de façon absolument certaine. Moi, j'ai commencé le théâtre avec Ariane Nouchkine, j'avais jamais rien fait. J'avais 20 ans et j'ai débarqué là pour un stage de 4 mois et ça a été plus qu'une révélation, ça a été un tremblement de terre, c'était comme retrouver la maison.
Et puis il y a eu la philosophie et puis il y a eu la psychiatrie.
Alors il y a eu d'abord la psychiatrie, on va dire, j'ai donné des ateliers théâtre en milieu psychiatrique pendant 15 ans. J'avais tout un rapport très spirituel au théâtre.
C'est-à-dire ?
Ben, c'est-à-dire que pour moi, c'était bien au-delà de faire des spectacles et de recevoir des applaudissements. J'aime beaucoup la phrase de Mnouchkine qui dit « Il faut bien sûr un peu d'ego pour faire du théâtre, mais c'est bien que ce soit à dose homéopathique. » Et donc, je partage tout à fait cet avis. Et donc, il y avait une dimension, j'aime bien dire spirituelle, c'est peut-être pas le bon mot, parce que je ne suis pas croyante, mais j'ai quand même mon Dieu personnel. Et donc... Donner des ateliers théâtre à des personnes fragilisées, mises un peu au banc de la société, avec qui je faisais vraiment du théâtre. Je ne faisais pas de l'art-thérapie, je faisais vraiment des ateliers théâtre. C'était très enrichissant spirituellement, avec des personnes aussi bien psychiatrisées que précarisées, fragilisées. Choix qui était certainement aussi en lien avec la maladie de ma mère. Voilà. Une façon de comprendre, de me rapprocher, d'essayer d'avoir des clés.
Alors sur votre route de metteuse en scène, il y a eu récemment Amor Mundi, où vous avez installé Hannah Arendt, la grande Hannah Arendt, et sa tribu de réfugiés intellectuels à New York, où ils sont en train de sabler le champagne pour la sortie de son livre, à Hannah, Les origines du totalitarisme.
La civilisation qui arrive avec Marie.
Non, c'est mon tribut à la vieille Europe.
La vieille Europe te salue.
Où tu vas, ton calme?
Oh, mais
alors la fête ne va pas durer lorsque Hannah Arendt apprend le suicide de Walter Benjamin qui tente de fuir le nazisme. Ça c'est toute l'histoire de la pièce. Ce qui est incroyable, c'est d'avoir monté une pièce de théâtre autour de cette figure, Hannah Arendt. Comment on monte un spectacle autour d'une telle figure ?
Alors c'était un rêve et j'ai mis plusieurs années à trouver la focale. Et puis un soir, j'ai une image qui est montée, je voyais... Hannah Arendt danser. Vous savez que quand on crée, la chose qu'on doit totalement évacuer, c'est le surmoi qui dit « Mais comment ça? Mais pas ça ?» La petite voix du surmoi a commencé à dire « Non mais faire un spectacle sur une philosophe, alors déjà, il commençait avec une image de quelqu'un qui danse, ça n'a aucun sens. » Et puis, l'autre voix, celle de l'imagination et de la création, a dit « Tais-toi un peu, allons voir un petit peu où elle danse. » En poursuivant l'image, elle dansait entourée de gens sur la planète Terre, sur l'écorce de la Terre. Après, certainement qu'au fond de mon esprit, il y avait cette phrase de Nietzsche « Je veux d'un philosophe qui sache user de la plume comme un danseur use de ses pieds », je cite de mémoire. Donc bien sûr, il y avait l'idée de la danse dans la philosophie, dans la pensée, quelque chose qui est en mouvement. Et alors quand son exécuteur testamentaire a vu la vidéo, la captation du spectacle, il a dit « Anna aurait adoré ça parce que elle adorait danser, elle dansait très très bien, ce que j'ignorais complètement ».
Ce qui est fou, c'est que j'ai eu l'impression de voir Anna Arendt, effectivement, quand elle danse avec cette coupe de champagne, elle a ce corps un peu charpenté comme ça.
Mais et elle est interprétée par Mathilde Lefèvre.
C'était prévu, j'allais le dire plus loin, mais puisque vous le faites, c'est magnifique. Alors, ce petit passage-là qu'on a écouté pour en sol majeur, il précède effectivement ce moment tragique. C'est lorsqu'elle apprend la disparition de Walter Benjamin. Elle va s'en remettre à l'oraison funèbre d'un certain Périclès qui compte énormément pour vous, Myriam Sadoui.
Alors, il compte énormément pour Anna Arendt. On appelait Anna Arendt la Thucydide de notre temps. Bravo. Donc, c'est d'ailleurs par elle, par la lecture d'Arène, que j'ai découvert la guerre du Péloponnèse de Thucydide, admirablement traduite par Jacqueline Dormy, ici en français. Et donc, en effet, j'ai mis Anna convoquant Périclès au moment de la mort de Walter pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, même si Périclès, quand il vient lui parler, lui ne sait pas qu'il y a eu la Shoah. Chez nous, les mêmes hommes peuvent s'adonner à leurs affaires personnelles et à celles de l'État, nous dit Périclès. Nous considérons que l'homme qui ne participe pas à la chose publique, non pas comme quelqu'un qui a la paix, mais comme un mutilé. Notre ville est ouverte à tous. Nous n'écartons personne de la possibilité d'apprendre ou de la vision d'un spectacle, surtout si nous pensons que la révélation pourra lui en être profitable, et cela même à nos ennemis.
La suite sur un plateau prochainement, c'est tout le mal qu'on souhaite à Amor Mundi. La philosophie en tout cas, pour peut-être arriver à déconstruire ce monde, Myriam Sadoui, est-ce que pour attaquer Final Cut, dont on va entendre un extrait pour en sol majeur, un premier extrait, est-ce qu'il a fallu, il vous a fallu arriver à aimer ce monde? C'est la traduction d'Amor Mundi.
Tout à fait, et c'est surtout une phrase d'Arène qui disait « C'est tellement difficile d'aimer le monde ». Oui, déconstruire, c'est le très bon mot. Moi, j'ai eu une chance incroyable, c'est de pouvoir écouter une conférence de Derrida sur foi et pardon. Et je dirais que c'est la philosophie de Derrida et cette conférence qui m'a ouvert à l'idée d'un pardon possible. On ne peut pardonner que l'impardonnable, dit-il. Et donc, ce n'est pas nous, humains, qui décidons de pardonner l'impardonnable, mais un mouvement dont il disait « ça pardonne en moi ». C'est par là que j'ai rencontré la possibilité d'avoir ce mouvement du pardon qui s'est mis en route pour moi par rapport à ma mère, qui m'a vraiment privée de mon père, par rapport à l'histoire du monde, qui m'avait fait basculer dans le racisme, dans les effets de la colonisation sur mes parents et sur moi. Donc voilà, ce mouvement s'est mis en place dans un mouvement déridien de déconstruction, oui. Ma mère était revenue 2 ans plus tôt en Tunisie rejoindre l'homme qu'elle aimait. J'ai appris à 40 ans qu'elle était descendue un soir d'hiver dans le port de Tunis. Mon père l'attendait sur le quai. Elle lui a dit « J'ai tout quitté pour toi. Si tu ne m'épouses pas, je serai une fille perdue. » Et 2 jours après, ils se sont mariés seuls devant un notaire. Et maintenant, j'ai 3 ans. Et maintenant, ils divorcent. Et je ne reverrai plus jamais mon père. Ma mère l'éjecte du territoire familial. Plus personne ne m'en parle. Plus personne ne le nomme. Il est rayé de la carte. Et là, notre vie va changer du tout au tout.
Désormais, nous vivrons avec mes grands-parents. Aucun étranger ne doit rentrer dans la maison, aucun étranger. C'est un véritable coup d'État. Ma mère promulgue une constitution dans la cuisine, avec un article fondateur. Tu n'as pas de père. Toute question est interdite. La langue régnante est le français.
Et comme étrange étrangère.
Un premier extrait de Final Cut avec vous, Myriam Sadoué, actuellement au Théâtre de Belleville à Paris. Comment on peut présenter ce spectacle ? Est-ce qu'on peut dire que c'est un récit familial en fragments ? Est-ce que c'est une enquête biographique en mouvement ? Comment vous le présenteriez ?
Alors, j'ai toujours dit que pour moi, le mot spectacle ne convenait pas tout à fait, mais pas non plus le mot performance. J'aime bien penser Final Cut, en tout cas, sa conception, je l'ai pensé comme ça, comme une sorte d'intervention poétique, politique. Poétique et politique, c'est des mots qui sont assez proches, finalement. Mmh. Et qui articule mon histoire biographique à la colonisation française en Afrique du Nord. Donc, il vise à faire apparaître l'impact géopolitique sur les vies personnelles. Aussi, qui est un point de vue de femme, autrice, qui dit « L'histoire avec un grand H, c'est l'histoire des gens. C'est l'histoire des gens avec un grand G. »
Alors, c'est drôle, vous avez prononcé le mot d'intervention. Donc, les associations sont toujours intéressantes. J'ai « intervention divine » qui m'arrive en tête. Parce qu'en fait, effectivement, d'après ce que je comprends, c'est quand même la mort qui a permis ce récit.
Tout à fait. Et la mort de ma mère et la mort de mon père, oui. Il y a eu deux événements qui m'ont conduit à ce récit. Le premier, qui est en mai 2002, c'est l'arrivée de Jean-Marie Le Pen au second tour de l'élection présidentielle, qui m'a fait penser qu'un jour, il faudrait que je fasse quelque chose avec mon histoire, puisque le racisme était en train de remonter. Et je dirais que le spectacle, hélas, est de plus en plus sous ce signe d'un récit qui vise à démonter, à réarticuler autrement l'empire, le colonialisme et le racisme.
Mmh. J'aimerais bien qu'on dise un mot d'abord de la mise en scène. C'est la mort qui vous laisse vous avancer sur scène. Vous êtes assise à une table avec des tiroirs que vous allez ouvrir. Vous y racontez les débuts entre une Italienne qui dit être fille de colons italiens, ce qui n'est pas le cas. Ce sont les Français qui sont les colonisateurs. Vous racontez ce qui peut s'apparenter à votre vie, même s'il y a une écriture, un agencement, un regard sûr. Et c'est vous qui êtes porteuse de cette voix. Êtes-vous toujours comédienne sur scène ? Quelle comédienne êtes-vous ?
Alors, je pense que je suis une comédienne qui a beaucoup lu le paradoxe de Diderot. Donc,
C'est-à-dire
que plus on est froid et distant, plus le spectateur peut être emporté. Quelle comédienne je suis ? C'est une narratrice. D'abord, c'est pas moi. Et c'est une narratrice qui est traversée par des voix. C'est ça, Final Cut, en termes de jeu. C'est le mouvement de la recherche du temps perdu. C'est notre maître à toutes et à tous.
Tout est langage, on le sait bien. Dans cette maison familiale où vous allez grandir chez vos grands-parents italiens, vous parlez de coup d'État, vous parlez de constitution promulguée par votre mère. « Tu n'as pas de père », c'est l'acte 1 de cette constitution. Ces mots sont arrivés comment ?
Alors, pour moi, c'était très important que dans l'écriture, le champ lexical soit celui de la politique et de l'empire. En plus, ma mère était quelqu'un qui s'intéressait beaucoup à la politique, qui avait une haute conscience, je dirais, de l'impact politique sur les vies. Et donc, par exemple, quand elle fait la démarche de francisation de mon nom, elle le fait, il y a une part de folie chez elle, effacer le nom du père. Et puis, il y a une part qui est de percevoir, paranoïaque elle était, mais donc les paranoïaques sont des gens toujours très, très brillants. Et la paranoïa s'appuie toujours sur des faits vrais. Après, elle fait une construction, mais elle ne part jamais de rien. Et donc, quand on lit la loi du 25 octobre 1972, qui est la loi avec laquelle mon nom a été francisé, c'est une loi paranoïaque qui dit qu'il est légitime de changer de nom lorsque ce nom a une apparence ou une consonance étrangère dans un souci de meilleure intégration dans la communauté nationale. Ça, c'est ce que la loi dit. Donc, je voyais bien comme la politique avait teinté notre vie. Donc, je voulais un champ lexical qui sorte de l'histoire intime et familiale et qui la mène sur le territoire de la géopolitique.
C'est-à-dire que votre mère, donc diagnostiquée paranoïaque, pour vous, Myriam Sedoui, les maladies mentales, elles ont un lien avec les violences politiques ?
Ah, de façon absolument certaine. Et des gens comme Frantz Fanon, des gens comme Tosqueles, des gens comme Oury, qui sont des psychiatres qui ont vraiment œuvré à une psychiatrie politique. Des gens comme Foucault, bien évidemment, qui montrent à quel point la folie, dans l'histoire de la folie, est complètement constituée par l'État. Le régime de Vichy avait obéi aux nazis, bien sûr, en cessant d'alimenter les hôpitaux psychiatriques en nourriture.
En tout cas, vous faites un lien entre la maladie mentale de votre mère et son histoire d'amour prise dans les griffes de la grande histoire. Protectorat français en Tunisie, dans une famille italienne, ce père arabe qui n'est pas le bienvenu, elle qui fronde malgré tout cette famille, qui fait un enfant avec cet arabe, qui se marie en cachette de la famille italienne.
Oui, qui fuit la famille, qui repart en Tunisie dès sa majorité. Je fais un lien, il n'explique pas tout, mais il est évident que ma mère a été persécutée de par son choix amoureux. Il ne faut pas oublier que tout ça se passe dans les années 60. Je crois qu'on était deux dans ma classe à être enfants de divorcés. C'était encore un moment où on était regardés bizarrement parce que nos parents avaient divorcé. Ma mère travaillait. D'ailleurs, elle me disait, une vraie femme, c'est une intellectuelle. Une vraie femme, c'est quelqu'un qui fait des études. Elle interdisait à ma grand-mère de m'apprendre à coudre, à cuisiner.
Les interdits étaient très nombreux.
Ah oui, les interdits étaient très nombreux. Ma mère avait l'intention de faire de moi une sorte de figure sculptée uniquement par son désir. Et comme elle me l'a souvent dit, et avec toi, je ne suis arrivée à rien. Enfin, presque.
Alors, on le disait, la mort, sa disparition est à l'origine finalement de votre récit Final Cut, Myriam Sedoui. Mais la mort est aussi une seconde vie dans votre histoire, car... La disparition de votre mère vous permet de poser les pieds pour la première fois en Tunisie à 40 ans dans la famille et dans l'histoire de vos parents.
Ma tante a vu mon visage complètement changer. Elle a demandé ce qu'on m'avait dit, pourquoi j'avais l'air inquiète. Mon cousin a commencé à lui expliquer et là ma tante a tendu son doigt vers moi et elle m'a parlé comme si je la comprenais. Et je la comprenais. Oui, Myriam a raison. C'est exactement ça qui s'est passé. Quand il y a eu la bataille de Bizerte, ta mère a dit qu'elle n'était plus en sécurité ici. Elle a convaincu ton père de partir. Ils s'aimaient tellement, ils ne voulaient pas se séparer. C'est comme ça qu'ils sont partis en octobre. Les trois premières années, on a eu des nouvelles. Et puis plus rien. Jusqu'à ce que ton père revienne. Oui, Myriam, c'est ça qui s'est passé. Ils sont partis, ensemble, à cause de Bizerte.
Myriam Sedoui, ce « à cause de Bizerte » révèle bien le tricotage entre votre récit intime et la grande histoire.
Tout à fait, la bataille de Bizerte, je l'ai découvert en allant en Tunisie. Et un événement qui a fait disjoncter ma mère.
C'est-à-dire qu'il y a une base militaire française.
Voilà, en fait la Tunisie est devenue indépendante en 1956. De Gaulle ne voulait pas lâcher le port militaire de Bizerte tant que la France n'avait pas la bombe atomique, disait-il. Puisque c'est un port militaire stratégique. D'ailleurs, les nazis se sont précipités dessus dès qu'ils ont envahi la Tunisie. Et donc, cette base, jusqu'en 1961, cette base a été occupée par les Français. Donc, la gauche rattrape Bourguiba en lui demandant des comptes à ce moment-là, en lui disant, au fond, on n'est pas du tout indépendant. Et donc, là, il y a vraiment une marche des Tunisiens, une marche des jeunes, particulièrement de jeunes militants qui marchent sur le port de Bizerte et... Et effectivement, l'armée française quittera la base de Bizerte. Comme cette bataille a lieu le jour de l'anniversaire de ma mère, qu'elle est enceinte, je la connaissais suffisamment pour intuitionner qu'elle avait dû y voir un signe. Et par ailleurs, certaines phrases que je dis dans le spectacle où je dis des fragments de son délire final, elle disait « Je vais retrouver mon royaume perdu, toute une armée qui est partie, me disait-elle, va revenir pour me protéger ». Ça, c'est dans le délire final. Et ma tante le confirme. C'est-à-dire que je vois, au moment où ma tante me parle, qu'elle-même réalise tout d'un coup que les deux événements sont connectés.
Alors, il y a ce à cause de Bizerte, et puis il y a des références à la grande histoire de façon permanente dans votre récit. Vous faites allusion au traité du Bardo, signé par Jules Ferry en 1885, qui instaure le protectorat français donc en Tunisie. Vous faites référence aux manifestations des musulmans du 17 octobre 61 pour l'indépendance de l'Algérie. Je sais qu'il y a un discours du député communiste Petit à propos de ces manifestations qui est très important pour vous. J'ai envie de mettre un « nous » collectif. Hein. On a tous fait, nous avons tous fait avec les blancs, les fameux blancs de l'histoire. Est-ce que pour vous aussi, il a fallu dompter ces silences de la grande histoire ?
Oui, c'est-à-dire que mes parents arrivent en octobre 61 en France. Le 17 octobre, il y a le massacre des Algériens. Mon père est arabe. On est en pleine guerre d'Algérie. Vous savez, c'est Dolto qui dit quand on fait une psychanalyse, à la fin, quand on l'a menée jusqu'au bout, on ne s'intéresse plus à son histoire, on s'intéresse à celle des autres. Elle a raison. Tout d'un coup, on se rend compte que ce qu'on prend comme notre univers tout entier, tout seul, en fait, d'abord, il est partagé par beaucoup d'autres, et surtout que le monde qui nous entoure a un impact. Donc
il a fallu dompter, il a fallu
Il a fallu faire des recherches. Bizerte, qui connaît l'histoire de Bizerte ? On a toujours dit, ah oui, mais avec la Tunisie, tout s'est toujours très bien passé. D'ailleurs, Bourguiba avait fait la Sorbonne, alors avec lui, on pouvait vraiment discuter. Hein, c'était comme ça, on disait par là qu'il n'était pas un sauvage. Mais quand il demande à De Gaulle de libérer la base de Bizerte, celui-ci dit quand même qu'il lui parle comme un marchand de tapis. Vous voyez, toujours ce lexique de la domination qui revient dans tout. Et donc, si on veut combattre, il faut savoir. C'est Arendt qui dit « Ich will verstehen », je veux comprendre. Donc, comprendre, savoir, enquêter est une des clés de l'émancipation.
Alors, il y a l'histoire avec un grand H et la psychanalyse. Là, ça provoque des fous rires.
C'est oui, oui, bah, oui, parce que comment j'aurais pu faire sans psychanalyse avec cette histoire tellement compliquée ? Je n'aurais pas pu la traiter uniquement en connaissant les silences de l'histoire. Vous voyez, des gens comme Héribon crachent sur la psychanalyse en disant que seule la sociologie... mais non. Et en même temps, la psychanalyse ne peut pas être la seule réponse, bien sûr. C'est une articulation des deux, toujours.
La psychanalyse, et puis il y a le théâtre. Il y a l'intervention également du théâtre dans Final Cut avec la mouette de Tchekhov qui passe une tête. Pourquoi ?
Alors ça, pour moi, c'était le cœur. C'est-à-dire que la violence de ma mère et la réalité, je dirais, de ce qui s'était passé ne pouvait advenir pour moi que par la fiction. J'aime bien cette phrase de Lacan qui dit « La vérité a structure de fiction ». Moi, j'aime bien dire que la fiction a structure de vérité. Et donc, la scène de la mouette qui est cette dispute entre mère et fils, et je joue le fils dans Final Cut, avec un père absent, qui va être nommé pour la première fois entre la mère et l'enfant et dans le champ lexical de l'insulte, comme l'a écrit Tchekhov, je me reconnaissais là-dedans.
Donc l'histoire, la psychanalyse, le théâtre.
Le théâtre d'abord.
Et l'écriture. Parce que finalement, après la réécriture de votre patronyme, il y a l'écriture tout court avec ce titre « Final Cut ». C'est-à-dire que c'est un titre où l'autrice reprend la main sur son propre récit.
Tout à fait. Final Cut, c'est un terme de cinéma qui dit que quelqu'un a le montage final. J'aime bien dire qu'on ne recommence pas le film de nos vies. C'est tourné, c'est tourné. La seule marge de manœuvre qui nous reste, c'est le montage. Et donc, dans l'idée de Final Cut, c'était « je raconte l'histoire maintenant à travers ma propre focale. J'ai enquêté, j'ai écouté. » J'ai lutté contre les silences et maintenant je raconte.
Et vous pouvez dire « je suis désaffiliée ».
Je suis désaffiliée, je le dis dans le texte, oui. On m'a désaffiliée, bien sûr. Le nom de mon père est Sadawi. Je m'appelais ainsi jusqu'à 16 ans. Et ensuite, c'est Perfit qui a signé le décret, puisque ça dépend du ministère de la Justice, les francisations de nom. Et donc, je m'appelle Myriam Sadawi.
Quelle incidence ça ?
La psychanalyse m'a aidé à complètement assumer la fracture du nom. En plus, c'est vrai que le nom du père, c'est aussi une fiction de dire que ce qui vous nomme, c'est uniquement le nom du père. Le nom de la mère a quand même beaucoup d'importance aussi. Donc on voit bien que c'est un mode patriarcal de nomination. Mais enfin, la nomination, c'est très chargé symboliquement. Ça a eu d'ailleurs un effet sur moi. Je pense par exemple que mon égarement spatial est aussi lié à ce changement de nom. Et que donc, les seules choses où je me retrouve, c'est là où il y a un peu d'imagination et de fiction.
Final Cut 2 et avec Myriam Sadoui, c'est donc au Théâtre de Belleville à Paris jusqu'au 27 novembre.
Mes parents se rencontrent un demi-siècle plus tard, en 1955, un an avant l'indépendance de la Tunisie. Ma mère a 17 ans quand elle rencontrera mon père. Ses parents ont refusé qu'elle fasse les études qu'elle désirait ardemment parce qu'elle est une fille. Alors elle a demandé à travailler dans le garage de l'un de ses oncles, à Béja, une petite ville du nord à 116 km de Tunis. Mon père est plus âgé que ma mère. Il a 30 ans et c'est un homme d'affaires. Et ce jour-là, il a rendez-vous dans cette petite ville où vit ma mère quand soudain sa voiture émet un bruit suspect. Et la longue voiture noire entre dans le seul garage de la ville. On dirait un roman de Marguerite Duras. Ils se voient, ils se parlent, ils se plaisent. Et c'est la déflagration. Ma mère est surveillée par toute sa famille. Cet amour pour un homme que dans la langue coloniale on dénomme un indigène, un bougnoul, un bico, leur est strictement intolérable. Ma mère est vilipendée, insultée. Ils se donnent rendez-vous en cachette et ils veulent se marier. J'ai parlé à maman de notre mariage. Elle m'a évidemment traitée de folle. C'est les parapluies de Cherbourg. J'adore.
صيف السن انتهى بسرعة وحمرت أحراش الغار والمرة اللي شعرها أحمر مثلن شعلاني بالنار لا بداية ولا نهاية والوقت مارق غريب مثل مروري بأفكارك لحظة بتلمع وبتغيب يا عصافير السهل الجاي تبشر بشتي تشرين جوه أسامي بيباني حدا يذكرني لمين الدنيا حلقة وعم بتدور والقمر بالسما يدور صيف السنين طرنا القمر عصتو حالسهر ليطل وهدينا عقارب الساعة خايفين الوقت ليف ما في قوي بهالدنيا بتأخر حبوب الريح شعرك والكرز واللوز بأول يا عصافير السهر الجاي تبشر بشتي تشرين جوه أسامي ببالي حدا يذكرني لمين الدنيا حلقة وعم بتدور والقمر بالسما يدور انت حولي وأنا حولك في شي جاذبنا ومن دور الصيف انتهى ما قلتلك شي بزعل ليش زعلان عشان تبقى أسامي اطرح صبيعك عكتفي عم يحرقني من ايام يمكن لو تبس لي المطرح بتهدأ وجعي وبتنام صيف السنة انتهى بسرعة وحمرت احراش الغار والمرة اللي شعرها احمر متلن شعلاني بالنار لا بداية ولا نهاية والوقت مارق غريب وانا بتسمع بمرق ببالك وبروح من بده يداوي للجروح
هبة تاوجي chanteuse libanaise donc qui reprend en arabe si mon oreille occidentale a bien décodé Michel Legrand dans votre ensemble majeur Myriam Sadoui. Incroyable.
Donc moi j'ai un amour incroyable pour Jacques Demy et la musique de Michel Legrand. Et Les Moulins de mon cœur est une de mes chansons préférées. Elle dit bien que celui auquel on pense, fait tourner les moulins de mon cœur avec son nom. Et quand j'ai découvert cette version en arabe, ça m'a totalement bouleversée. C'était comme une union, une alliance entre des choses qui me constituent et qui tout d'un coup se retrouvaient dans le chant de cette magnifique chanteuse.
Alors vous avez entendu, Duras a fait son entrée en sol majeur dans l'extrait qu'on vient d'écouter de Final Cut, votre pièce. Duras qui aura été pour vous un refuge, une sorte de sas de protection pour vous à 16 ans. Ouais. Si je vous dis, je m'appelle Lola Valérie Steiner, ça vous reconnecte à quoi ?
Ben, ça me reconnecte à ce moment où vient mon père quand j'ai 16 ans et ma mère m'interdit de le voir très violemment. La venue de mon père est concomitante avec ma découverte de Duras et avec le changement de nom qui est opéré par ma mère, la francisation du nom. Je disais, je n'avais plus qu'un mot, c'était « je m'appelle Lola Valérie Stein » et c'est frappant, je disais le nom complet. Et alors Duras, quand je la découvre, Duras est une autrice incroyable qui a une mère folle. Et en plus, elle parle d'un monde, dans le barrage contre le Pacifique, d'un monde colonial, puisqu'elle est née dans une colonie, elle est née au Vietnam. Et donc, pour moi, Duras devient comme une sorte de sœur, une sorte d'appui, où une part de moi, même obscurément, se dit « Ah, donc on peut avoir une mère folle et créer ».
A.
A comme a cappella.
Au chemin qui monte la mer, couché dans le jardin de pierre, je veux que tranquille il repose. Je l'ai couché dessous les roses. Mon père...
Oui, ça s'appelle un moment en sol majeur. J'avais envie de ce moment parce que j'ai découvert en regardant Final Cut que vous aimiez bien chanter Myriam Sadoui a cappella des chansons françaises.
Tout à fait.
D'où vous vient ce goût ?
Ma mère chantait, elle chantait magnifiquement. On se parlait secrètement par chanson. C'était le moment où ma mère pouvait me dire certaines choses. Par exemple, elle me regardait d'un œil un peu complice quand elle chantait « Dis quand reviendras-tu » de Barbara. Et elle avait une sorte d'élan vers la fin de la chanson, quand la chanson dit « Je n'ai pas la vertu des fameux de marins, je sous-entendu, mais moi je vais revivre ». Et alors, ça me plaisait beaucoup. J'avais l'idée que ma mère n'était pas enfoncée dans le chagrin quand elle chantait. Tout d'un coup, c'était des moments clairs. Voilà pourquoi j'adore chanter a cappella.
Alors, il va falloir imaginer la voix a cappella d'Edouard Saïd qu'on ne va pas entendre véritablement en sol majeur, encore que, car il fait partie des lectures fondamentales pour vous, Myriam, comme Fanon, évidemment. Edouard Saïd, auteur notamment de L'Orientalisme, l'Orient créé par l'Occident. Mais le texte en particulier qui vous botte, c'est son livre « Out of Place », pas très joliment traduit par à contre-voix.
Oui, oui. En effet, la traduction de, en fait, c'est déplacé.
Pas à sa place.
Pas à sa place.
Où il raconte son enfance entre Jérusalem et les États-Unis.
L'Égypte, donc il a quitté la Palestine, bien sûr, au moment de
48.
En 48. À l'Akba.
Quel passage vous souhaitiez nous lire ?
Eh bien, la fin de Out of Place, parce que Saïd a théorisé le fait que le moi n'est pas quelque chose de stable et que pour des gens comme lui, comme moi, comme vous, on n'a pas à être assigné, désintégré, effacé, mais plutôt être dans un mouvement qui décrit comme ça. J'ai l'impression, parfois, d'être un flot de courants multiples. Je préfère cela à l'idée d'un moi solide, identité à laquelle tant d'entre nous accordent tant d'importance. Ces courants, comme les thèmes de nos vies, coulent tout au long des heures. Et ils n'ont pas besoin de s'harmoniser et de s'accorder. Ils sont à côté.
ils sont out of place. Mais au moins, ils sont toujours en mouvement, dans un temps et dans un lieu. Ils s'organisent en toutes sortes de combinaisons étranges et se déplacent, et pas nécessairement vers l'avant, parfois dans des sens opposés les uns aux autres, en contrepoint, sans thème central. Et là, il y a une forme de liberté.
Magnifique Saïd qui se posait toujours en outsider, hein, puisqu'il rappelait arabe mais chrétien, palestinien mais détenteur d'un passeport américain, doté d'un prénom britannique accolé à un nom arabe.
Oui, d'ailleurs, il raconte que les premiers jours d'école, à chaque fois, ce prénom, Edward, accolé à Saïd, faisait de lui déjà quelqu'un qui était regardé bizarrement, et même lui se demandait. Et donc, il théorise cet out of place aussi volant d'un prénom anglais, carrément un prénom de prince, ce Saïd qui le faisait regarder de travers dans l'université américaine. Et l'origine de out of place, c'est sa leucémie, contre laquelle il aura lutté 12 ans, et qui l'amène à revisiter ce qu'il a constitué, héritage qu'il nous laisse.
J'imagine que ce out of place vous a fait avancer différemment vos pions sur l'échiquier de votre propre vie. Myriam Sadoui, Final Cut, née du théâtre et du langage. Vous l'avez dit plusieurs fois, c'est une enquête qui continue. D'ailleurs, vous l'avez jouée à Carthage hein, en 2019. Est-ce que cette enquête est aussi une reconquête de vous-même ?
Oui, c'est bien dit. Même si, bon, conquête et reconquête, on se dit, ce sont des mots qui sont chargés de tant de tant d'impérialisme.
Mauvaise pioche.
Mais il y a quelque chose, oui, de la liberté, en tout cas. Ça, c'est sûr. Et même dans ma manière de travailler, en tant que directrice de compagnie, en tant que metteuse en scène, il y a aussi l'idée de se décaler, oui.
Alors plus largement et pour finir, je pense qu'on peut dire que c'est le genre humain finalement qui vous intéresse. J'ai vu dans votre inventaire sonore pour un sol majeur qu'une voix vous intéressait en particulier, Ingmar Bergman, réalisateur suédois. Et notamment vous êtes attaché à sa voix qui ouvre et clôt chaque épisode de Scène de la vie conjugale, vous savez la série. Et si vous allez d'ailleurs sur la chaîne franco-allemande Arte en ce moment, l'épisode 5 commence comme ça.
Johan och Marianne har i 10 års tid varit lyckligt gifta. De har levat i materiell trygghet i en skyddad värld, omgivna av släktingar och vänner.
Johan och Marianne ont vécu heureux pendant 10 ans. Ils ont toujours été à l'abri du besoin, entourés d'amis et de proches. Jusqu'au jour, dans une foudroyante confession, où Johan annonce qu'il était pris d'une jeune femme, nommée Paola, qu'ils vont partir 8 mois à l'étranger et qu'ils quittent le domicile conjugal. Une année s'est écoulée. Et Marianne commence à se remettre du choc. C'est alors que Johan demande à la voir. Elle l'invite à dîner chez elle. Au début, ils sont tous deux gênés et distants. Malgré tout, Johan finit par lui dire qu'on lui propose une chaire dans une université américaine. Il se sent très flatté et honoré. Il y voit aussi l'occasion de se débarrasser de Paola, dont l'amour devient trop passionnel et accaparant, etc. Alors d'abord, qu'est-ce que vous aimez ? Dans cette voix de Bergman qui ouvre et conclut chaque épisode de Scène de la vie conjugale.
Alors ce que j'aime chez Bergman, c'est que c'est quelqu'un qui se sert de matériaux biographiques pour créer tout en les dépassant. C'est-à-dire qu'il universalise un matériau qui lui est très intime. Et donc dans cette voix qui est dans chaque épisode, il n'est pas comme un Deus ex machina, mais plutôt comme un compagnon qui nous dit secrètement, vous voyez, tout ça m'est arrivé. Donc c'est ça que j'aime chez lui.
Et vous allez en faire une variation.
Et je vais en fait monter Scène de la vie conjugale, dont la création aura lieu en septembre 23. Et donc je commence les répétitions après avoir joué aux journées théâtrales de Carthage Final Cut. Je vais le créer en Belgique, au Théâtre Océan Nord et à la Maison de la Culture de Tournai, qui est notre coproducteur aussi. Et je vais en faire une variation, oui, c'est-à-dire qu'il va y avoir deux couples et non pas un. Ça va être comme une sorte de deal laboratoire. On va voir une version avec les mêmes mots où c'est l'homme qui annonce à Marianne qu'il part. Et dans l'autre version, avec les mêmes mots, ça va être l'homme qui va entendre de la femme qu'elle part avec quelqu'un d'autre. Et donc c'est un exercice que j'ai mené à Liège avec mes étudiants. Je suis aussi professeur au conservatoire de Liège. Et c'était absolument fascinant les questions que ça ouvrait.
Et c'est des jeunes gens de entre 20 et 25 ans. Et on voit qu'à chaque fois que c'est une femme qui prend en charge, je suis venue ce soir parce que j'ai quelque chose à te dire, je suis tombée amoureuse, tu comprends ? Toutes les filles avaient des gestes de compassion, de soin, en annonçant le départ, alors que les garçons, aussi très jeunes, avaient comme ça une sorte de carapace qui commençait à s'éveiller, de crainte de faire face aux larmes de l'autre. Et donc je me suis dit, il faut en faire un spectacle.
La parole féminine va donc reprendre ses droits.
En tout cas, on va voir que la souffrance n'est pas sexuée.
Merci Myriam Sadoui de cette belle visite en sol majeur. Justement, on va refermer cet en sol majeur avec une dernière note musicale avec Bach, mais servie comme vous le souhaitiez par la petite bande dirigée par...
Alors c'est une version...
Sigiswald Kuijken, comment on dit ?
Oui, alors ça je ne sais pas, mais donc c'est la version qu'on utilise dans Hannah Arendt, à Mormondi, Hannah Arendt.
Pourquoi ce morceau ?
Rien n'est plus beau que la passion selon saint Jean.
Au générique de cet ensemble majeur, un peu de Hannah Arendt, de Nantes a cappella, d'Ingmar Bergman en suédois, d'Edward Saïd, pas à sa place, mais bien en sol majeur. Émission à retrouver en podcast ou sur RFI.fr. Caroline Filliette, Laura Pinto, Yasmin Chouaki, on ne bouge pas jusqu'à demain. Micro fin prêt pour accueillir Aouès Séniguer. À demain.